Bien, bonne soirée. Alors, et merci à vous d'être là. Merci à Chantal d'avoir fait le voyage depuis, non pas Lille, mais une ville qui s'appelle Douai. Cahier de Douai, Arthur Rimbaud. Et qui fait le voyage pour nous rencontrer. Hein. Nous sommes, enfin, c'est pas la peine de le cacher particulièrement. Nous sommes collègues depuis un certain nombre d'années. Et nous avons eu le plaisir de travailler ensemble à plusieurs reprises en organisant des colloques. Mais c'est plutôt d'elle dont je vais parler, Chantal Lapeyre. Donc, on peut dire d'abord qu'elle a enseigné, que tu, on va adopter le tutoiement, ce sera plus simple, hein, que tu as enseigné, je crois que c'est important de le dire, à tous les niveaux, dans tous les terrains. Mm-hmm. Voilà, je crois que c'est y compris la petite enfance. Donc une expérience de ce qu'est la lecture, de ce qu'est le langage au début de l'existence. Passons maintenant à ton statut plus récent, donc à ton statut, à tes activités plus récentes. Tu es en tête d'une série de publications très nombreuses, à la fois sur la littérature du XXe siècle et en particulier sur un auteur, Pascal Quignard, donc pour ne pas le nommer, Pascal Quignard, avec lequel tu as passé des entretiens, ce qui a donné un livre, Pascal Quignard, le solitaire, et puis une thèse, un ouvrage issu d'une thèse qui s'appelle les Mémoires des origines.
Mémoires de l'origine.
Mémoires de l'origine. Mémoires de l'origine. Je parle assez fort, j'espère. Hein. On peut dire que c'est un peu le socle de ton travail. Et puis très vite aussi d'autres publications, donc ça va amener l'ouvrage d'aujourd'hui, d'autres publications sur la lecture, sur l'expérience de lecture en particulier, sur l'expérience de lecture à travers la fiction. Donc voilà, quelqu'un de très impliqué et pas du tout dans une tour d'ivoire d'enseignant-chercheur. Beaucoup de travail, hein, c'est quelqu'un qui m'a toujours impressionné par sa force de travail et sa ténacité. Et pour commencer, je revoyais ce matin, pour aborder d'entrée de jeu cet entretien, en prenant les questions un tout petit peu en amont, j'ai repris ce numéro de la revue Critique, que vous connaissez tous, toutes, consacré à Pascal Quignard en 2007. Et Chantal a écrit un texte de fiction, on peut dire, un texte de fiction dont a paru dans ce numéro un extrait. Ce texte s'appelle « Éloge de l'aube ». Alors c'est à la fois une confidence et la relation de la rencontre avec un écrivain, un grand écrivain. Bon. Et en fait, voilà la confidence qui nous est faite. « Aussi loin que je me souvienne, seuls les livres m'ont intéressé. De l'écrivain, de la notion d'écrivain, je n'avais qu'une idée très imprécise, très vague, et tout le paragraphe continue de la sorte à décliner cet intérêt profond pour les livres, pour la lecture, peut-être un intérêt presque exclusif pendant assez longtemps. Quels commentaires, avec le recul de ces quelques années, trois années, cinq années maintenant, t'inspire l'évocation de ce long souvenir, de fait, ce souvenir au long cours. Enfin.
Rien n'a changé à cet égard. C'est-à-dire qu'en effet, à l'époque, je lisais des livres en quantité et jamais ne m'arrêtait le nom de l'auteur qui était un indice sur la couverture, comme le nom de la maison d'édition, des choses comme ça. Mais de fait, cette question de l'auteur n'était pas du tout au cœur de mes expériences de lecture à l'époque. C'est pourquoi la rencontre avec Pascal Quignard en particulier a changé beaucoup de choses, puisque j'ai découvert, comme tout le monde le découvre à un moment donné, que derrière les livres que je lisais, il y avait quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un d'autre que cette figure d'auteur que je pouvais à la rigueur m'inventer en lisant ces livres. Donc à cet égard, non, enfin, cette dimension est très très fortement ancrée dans ma mémoire et la découverte de la notion d'auteur est venue beaucoup plus tard. Mais c'est vrai que j'ai gardé aussi pendant très longtemps cette idée curieuse, très idéologique sans doute, quand j'avais abordé pour la première fois Pascal Quignard, c'était dans cet état d'esprit, c'était l'œuvre, et c'est à l'œuvre que je vais m'intéresser, seulement à elle, en aucun cas à l'auteur. Et cette position a quand même un petit peu bougé maintenant.
Ce qui signifie qu'en fait que l'expérience même de lecture, en fait, peu, en tout cas, fait pendant assez longtemps l'économie de la notion d'auteur ou d'écrivain, et que c'est par cette expérience de lecture que l'on va aborder l'ouvrage pour lequel tu es venu aujourd'hui. Mais bon, la question est un petit peu naïve, mais quand on peut dire « aussi loin que je me souvienne, seuls les livres m'ont intéressé », ça c'est une forme d'engagement, d'implication de lecteur engagé, si vous voulez, si tu veux. Donc est-ce que par bribes de souvenirs, qu'est-ce qui pouvait à ce point forcer ou stimuler ton intérêt au sens des classiques ? Vous m'intéressez, hein, est-ce que c'est l'énigme d'un monde méconnu ? Est-ce que ce sont des rencontres ? Est-ce que c'est une question, le ressassement d'une question ? Est-ce que c'est la multiplicité des univers rencontrés comme ça Seuls les livres m'ont intéressé. Quoi dans les livres ?
Parce que je crois que je pensais, comme sans doute beaucoup d'enfants, que les livres contenaient une vérité que seul un lecteur un peu affûté pourrait déceler, pourrait entendre. Et cette idée que la littérature contenait de possibles révélations est restée ancrée également très longtemps en moi, jusqu'à ce que je commence à réfléchir un petit peu à ce que c'était que la fiction, et que donc cet aspect se modifie quelque peu ensuite, à vrai dire.
D'accord.
Mais le pas suivant a été de penser que chaque livre construisait une modalité de vérité possible à travers une façon de penser la fiction, de donner la fiction, de construire la fiction. Et que donc on n'avait affaire qu'à des petites parcelles à chaque fois.
Ouais. Non, c'est important de le préciser, parce que ces livres, ce ne sont pas n'importe quel livre, ce sont des livres qui entretiennent un rapport particulier avec le mot qui sera prononcé, là, avec la réalité ou le réel, donc ce rapport qui est médiatisé par la fiction. Donc ce ne sont pas des livres sur les oiseaux, la pêche, la cuisine, ou pourquoi pas d'ailleurs, mais c'est le rapport avec la fiction.
Oui, en fait, il y a une phrase de Philippe Forest qui m'avait beaucoup frappée quand je l'avais découverte, je vais vous la lire si je la retrouve, qui rend raison en fait du choix de ces auteurs, ceux-là plutôt que d'autres. Il dit de Flaubert, Céline ou d'Aragon quelque chose qui vaut aussi pour les auteurs dont je parle dans ce livre, qui est qu'au plus profond d'eux-mêmes, ils témoignent d'une sidération devant la condition humaine et manifestent que l'homme, que l'être se tient devant le monde comme devant une question sans réponse qui n'appelle à son tour qu'une perpétuelle parole de compassion et d'amour tragiquement adressée à tous les vivants. En fait, tous les auteurs dont je parle dans ce livre sont des auteurs qui ont en commun cette sidération devant la condition humaine et aussi cette volonté de la question plutôt que de la réponse, pour le coup.
Ouais. Voilà. Oui, moi, c'est une phrase qui... Il faudra que je note, je prenne la référence d'ailleurs, parce qu'elle est tout à fait remarquablement claire. Oui. Alors, et précisément, on en vient presque naturellement. C'est pas mal comme ça, les entretiens où les transitions sont naturellement. Bon, on en vient donc à cet ouvrage, Résonance du réel. Donc, voilà un titre, une première partie de ce qu'on voit sur la page de couverture, Résonance du réel, et en fait ce réel, il est en partie, mais en partie seulement défini comme cette énigme de la condition humaine, mais c'est peut-être pas simplement ça. Enfin, une forme d'inquiétude, en tout cas, hein, qui attire dans la lecture, hein, qui capte. En tout cas, puisqu'on peut lire, et là je m'attache simplement à une partie du titre, à ce mot réel, hein, on peut lire que sur la quatrième de couverture, comme il est d'usage qu'un bon lecteur le fasse lorsqu'il veut s'informer, pourquoi ce réel ? Car la langue ne dit pas tout. Au-delà subsiste un réel indicible qui fait sans cesse événement et rupture. Au-delà subsiste un réel indicible qui fait événement et rupture. Bon, ce qui est intéressant, déjà ici, c'est le rapport entre réel, dicible, indicible. Quelque chose qui force ou qui échoue à être articulé.
Oui, en fait, le point commun chez tous ces auteurs, c'est le fait qu'ils pensent précisément ce qui fait événement. C'est-à-dire une expérience qui est illustrée diversement dans les œuvres étudiées, comme par exemple la mort d'un enfant, une perte, un deuil, quelque chose qui fait rupture dans le tissu continu des jours. Et il me semble que c'est ce tissu continu des jours qu'on appelle réalité. Il me semble que ces auteurs ne parlent pas de la réalité, ou plutôt ils la questionnent pour essayer de cerner ce dont elle est le masque. C'était tout l'enjeu de ce livre, d'évoquer une sorte d'autre petite histoire de la littérature, une sorte de suite d'œuvres qui ne prennent plus la réalité comme argent comptant, mais qui essaient de la mettre en question. Et c'est de cette manière, d'ailleurs, que j'ai été amenée à penser le statut du mal en relation avec le réel dans la première partie.
Voilà. On va y venir. Et si je prends le terme de résonance, il va s'entendre ce terme au fur et à mesure dans l'entretien. Je pense que résonance, dans une première acception, c'est la résonance en nous.
Oui, c'est la résonance. Moi, ce que j'ai essayé de suivre dans ce livre, c'est les résonances que ce réel, cet événement qui fait effraction, pouvait avoir chez un certain nombre d'écrivains. Ce sont aussi les résonances de ce même réel, de ce même événement pour le lecteur qui reçoit, en effet, qui reçoit ces récits, ces textes inclassables, en fait.
Bon, c'est tout à fait. Alors, des textes inclassables, et peut-être que là on aborde le sous-titre on regarde jamais assez les sous-titres, et qui m'a. Je crois que dans la première version que j'avais lue une époque, je ne pense pas qu'il y avait ce sous-titre. Et donc, le sous-titre est quand même très parlant, très intéressant, très simple aussi. De Balzac à Pascal Quignard. Bon, alors à première vue, on pourrait penser à une chronologie, à une histoire littéraire, ce que ça ne sera pas du tout. Moi, c'est une petite remarque qui a son grain d'humour. J'ai simplement noté que seul Pascal Quignard avait l'honneur d'être accompagné de son prénom et que Balzac, on lui avait enlevé son honoré de.
Oui, alors ça, c'est une négociation, je pense, avec l'édition.
Ah, c'est l'édition, d'accord. D'accord.
Qui m'a demandé de préciser un peu le sens de mon titre en indiquant quand même les bornes temporelles, si on D'accord. veut, de ce travail. Enfin, plus ou moins, Pascal Quignard étant exemplaire de cet ancrage du réel, enfin de cet intérêt pour le réel. Mais en réalité, le dernier texte, avant la conclusion, est un texte sur Philippe Forest.
Oui. Donc toute une série de chapitres vont se décliner. C'est un parcours. Donc je crois, disons-le tout de suite pour les amis qui sont là, que ce n'est pas une histoire littéraire en dépit de Balzac à Pascal Quignard. C'est pas du tout une, comment on pourrait dire, un inventaire. Voilà. Moi j'ai essayé de formuler ça. Je ne sais pas si tu serais d'accord. Je dirais que ce serait plutôt on pourrait parler de critique. Je crois dans le sens le plus noble et le plus réel du mot. C'est-à-dire qu'il part d'une expérience de lecture, hein, mais par conséquent d'une critique qui assumerait le risque de l'autoportrait, me semble-t-il. Bien sûr, hein, comme disait l'autre, toute théorie est un autoportrait. Le risque de l'autoportrait, je veux dire par là qu'il y a des traits distinctifs, des semi-aveux, des thèmes récurrents, hein, des métaphores obsessionnelles, comme dirait Charles Moron, enfin, etc. C'est d'accord là-dessus. Enfin, on va voir. Alors on va prendre le chemin par son début, parce que tu as évoqué la question du mal, et ça je crois que ça mérite d'être éclairci, parce que ça m'a beaucoup intéressé. Il y a eu un séminaire qui s'est tenu dans puissance l'équipe Modernité, mal. Puissance du mal, il y a quelques années, puissance du mal, donc qui posait toute cette question au regard du XXe siècle. Donc ce qui frappe dès les premières pages, ce qui m'a frappé, et ce qui semble l'orienter aussi en profondeur, c'est la prégnance de la relation entre le roman et le mal. Je cite, « Les romans ici évoqués, je n'ai pas noté la page, je suis dans le tout début, « Les romans ici évoqués pensent le réel et lui donnent le nom du mal, hantise des vivants face aux deux chutes qui cernent leur existence. » Je pense que ces deux chutes, c'est la chute dans le langage et la chute dans la mort, c'est ça, ce sont ces deux chutes.
Je pensais à la chute de la naissance.
Ah, la chute de la naissance, oui, c'est parce que je n'ai pas retrouvé le contexte. Oui. Mais bon, peut-être, bon, d'accord. Oui, alors cette prégnance de la relation entre le roman et le mal, est-ce que, il ne s'agit pas de faire une longue dissertation, mais pourquoi s'est imposée cette relation, plus qu'une cohabitation, cette conjonction, finalement, entre le discours romanesque, forme tel que Balzac peut-être le réinvente entièrement, et le mal, enfin, cette présence qui hante l'histoire de l'humanité. Enfin.
En fait, la question que je me suis posée initialement, elle portait surtout sur Léo de Hurlevent d'Émilie Brontë, qui est, parce que je crois que c'est un des premiers textes que j'ai écrits, ils n'ont pas été tous écrits dans l'ordre où ils sont restitués ici, qui était qu'est-ce que c'était que... je reprends ce que disait Bataille, qui parlait d'une accointance problématique entre la littérature et le mal, qui dit que la littérature est coupable, qu'elle n'est pas innocente, qu'elle doit se reconnaître telle. Et dans le livre qui s'appelle « La littérature et le mal », précisément, il donne comme exemple Léo de Hurlevent. Et j'ai eu à mon tour envie de comprendre ce que c'était que le mal dans le roman Léo de Hurlevent. Moi, je l'avais lu, comme beaucoup, très jeune. J'étais absolument fascinée par cette histoire. J'étais restée très longtemps hantée par cette lande battue par les vents, par ce Heathcliff qui cherchait à... Enfin, qui ne renonçait jamais à Catherine, y compris quand elle était morte, etc. Et donc la vision que j'en avais était très éloignée, finalement, de ce que disait Bataille. Et en le relisant, mon point de vue a complètement changé, puisque c'est en effet une modalité du mal que raconte Émilie Brontë dans ce roman. C'est-à-dire, elle décrit un monde où tout est semblable, tout fait écho, d'abord pour le personnage d'Heathcliff qui ne cesse pas de retrouver des traces ou des échos de la femme qu'il a aimée et qu'il a perdue. Et il me semble avoir mieux compris de quelle nature était ce mal. Et par extension, il m'a semblé qu'en le mettant en lien avec d'autres romans, ce que la littérature du 19e appelait le mal, là pour le coup, en tout cas dans les romans que j'avais étudiés, c'était très probablement une sorte de, enfin, un des noms du réel, où le mal nommait à sa manière, de manière très, très orientée, le réel que moi j'essayais de traquer par ailleurs. Je ne sais pas si je suis...
Si, et moi je me suis posé une question, si, mais je pense qu'il faut pousser les questions à fond. Je me suis posé la question, mais c'est parce que Bataille est arrivé là, donc c'est pas un hasard. Si on ne pouvait pas parler ici d'une critique, je mets le mot entre guillemets, hein, une forme de critique théologique du roman. C'est-à-dire en ce sens qu'une théologie inversée, une théologie négative, en ce sens que le diable s'est simplement substitué à Dieu. Le diable, c'est la grande problématique du roman. J'avais même noté d'ailleurs, pour marquer cette impression de lecture, la pensée diabolique du roman, enfin quelque chose comme ça. Enfin bon, c'est une question qui peut rester ouverte, et c'est ce qui est cette théologie négative ou cette théologie où le diable prend les rênes de la situation. Finalement, on a l'impression qu'elle s'inscrit dans la très longue durée, enfin jusqu'à nos jours, mais bon.
Oui, mais enfin, le mal ou le diable, c'est enfin ce que montre Émilie Brontë dans son roman, c'est que le mal ou le diable, c'est un fait de langage surtout. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont la parole n'advient pas et qui est la cause du mal. Heathcliff ne cesse pas de semer le mal autour de lui parce que quelque chose de l'ordre d'une non-reconnaissance totale de la mort, c'est-à-dire d'un principe différentiel, est à l'œuvre dans ce qu'il fait. Il ne reconnaît pas du tout l'idée même de la mort, de la fin, et c'est ce que Émilie Brontë définit comme le mal. À la fin, quand Heathcliff a rejoint Catherine dans la tombe, les dernières scènes sont assez fascinantes, puisque il n'est plus du tout question de lande battue par les vents, il est question d'un endroit fleuri où on entend des notes de de musique, c'est un paysage d'été, etc. Et ça n'a plus, strictement plus rien à voir. Et on voit deux personnages penchés ensemble sur la page d'un livre. Et cette scène de lecture m'a beaucoup frappée aussi à la fin du roman, comme si... les morts étant à leur place, alors quelque chose comme de l'ordre de la littérature pouvait advenir. Comme s'il fallait avoir vraiment consenti à la perte pour que la littérature advienne. Et voilà, enfin, dans cette dynamique-là que j'ai repris le livre.
Oui.
Alors, théologie négative, moi, je ne suis pas sûre du tout.
Négative au sens, c'est pas... théologie négative, c'est on ne peut pas trouver les qualificatifs qui parle de Dieu, donc le terme ne convient pas. C'est simplement une théologie où Dieu, ou le mal, ou le diable aurait remplacé... voilà, c'est simplement une théologie qui aurait mis le mal en une sorte de position paradigmatique, enfin, voilà. Principe explicateur, enfin.
Oui, mais c'était une image aussi. Enfin, dans ce que je dis dans le livre, c'est parler. Enfin, il y a tout un fil aussi, si on suit un peu les images dans le discours de Nelly ou de Lockwood sur Heathcliff, il est présenté comme le diable, etc. Enfin, le diable, le mal, ce ne sont que des noms pour désigner un phénomène.
D'accord.
C'est plutôt dans ce sens-là.
Et il y a une autre, oui, là, je suis d'accord, mais bon, tout le monde ici n'a pas lu ou n'a pas en mémoire les Hauts du Hurlevent, mais il y a une autre, une autre explication, une lecture convergente, d'ailleurs elle est mentionnée à la page 48, à l'instar d'Heathcliff, enfant trouvé de trouble origine, je crois qu'on en avait parlé d'ailleurs une fois, c'est parce que Heathcliff est aussi un enfant trouvé de trouble origine, qu'il va réduire une espèce de vengeance, alors dont on dit qu'elle est souvent diabolique, hein, qui va s'approprier et détruire la famille légitime, etc. On pourra avoir
c'est une explication psychologique.
Socio-historique.
Oui.
Hein, c'est ce qu'on retrouve aussi dans La Mort d'Eddie Chatterley. On peut avoir cette lecture. Voilà.
Mais ce motif de l'enfant trouvé qui sème le désordre, je crois que c'est Pascal Quignard qui, dans un livre, remonte à l'origine de Boucle d'or pour montrer que c'est la même chose qui est à l'origine de Boucle d'or, c'est-à-dire l'élément extérieur étranger qui vient semer le désordre, etc.
D'accord. Donc c'est une figuration du mal. Oui, oui, on peut l'entendre. Je comprends tout à fait. Alors, ce qui est intéressant dans la fin de ce chapitre, ça nous renvoie à cette hypothèse qui va conduire l'expérience de lecture. J'ai noté cette phrase. Une fois qu'on a pris en la mesure de cette tragédie, enfin de cette force, l'acte de lire est en ce sens un acte tragique. Je vais peut-être reprendre un peu plus haut d'ailleurs. Le geste d'écrire est une violence qui éduque la violence, une nomination est mise en ordre, alors que la lecture pacifie en retour, elle a une force cathartique. L'acte de lire est en ce sens un acte tragique. Ce qui est une formule saisissante.
Ben, je crois que c'est en fait très lié à ce que je disais tout à l'heure sur la perte, le fait d'habiter le langage, le fait de ne plus pouvoir accéder à la souveraineté enfantine dont parle Bataille. Les personnages ont consenti à une sorte d'alliance finalement dans la lecture, mais sur fond de négatif, sur fond de négatif qu'ils viennent effectivement de traverser. Ce que je propose de dire à propos des Hauts du Hurlevent, c'est que c'est une traversée du mal. Comment on traverse, comment on en sort, c'est une sorte de petit apologue de cette traversée que dit le roman.
Voilà. Oui, non, mais ça éclaire d'autant mieux les phrases liminaires, c'est-à-dire depuis l'enfant, j'étais peut-être que dès cette époque, il y avait cette espèce de pas de complicité, enfin d'intuition de la lecture comme acte tragique. Enfin, c'est une expression qu'on trouvera rarement dans un manuel de lecture, ni dans une méthodologie quelconque de la lecture. Voilà ce que je voulais rappeler quand même.
Oui, non, c'est vrai. Non, mais on a tendance à présenter la lecture. Je vais absolument pas aller contre les bienfaits ou les vertus de la lecture. Mais enfin, il me semble qu'il faut prendre acte de sa place dans l'expérience humaine. Et ça expliquerait en particulier pourquoi parfois c'est si difficile... de consentir à ce tragique pour les enfants.
Oui.
Pourquoi l'entrée dans la lecture est si périlleuse ? Parce qu'elle suppose un consentement.
Je me souviens d'une phrase d'Antoine Compagnon dans un numéro sur la lecture qui était dans le magazine littéraire. Il avait intitulé « On parle souvent de plaisir de lire », ça m'a toujours bien fait rire, ça. Et alors, une phrase qui disait « L'angoisse de lire ».
C'est quelque chose à quoi je crois fermement, qu'il y a une angoisse de lire. Et que les personnages à la fin du roman le situent à sa juste place. C'est-à-dire après une traversée de choses absolument terribles. D'autant qu'il y a aussi toute une série de notations dans le roman à propos des livres et de la lecture qui sont dans le même temps où Heathcliff étend son ravage autour de lui. Les livres de Catherine sont dans un coin, ils sont griffonnés dans les marges, mais ils sont à moitié moisis, abandonnés, etc.
Dans la bibliothèque.
Ce n'est qu'à partir du moment où ils disparaissent, l'un et l'autre, que les livres commencent à avoir une existence valide, c'est-à-dire où ils sont du côté plutôt ensoleillé des choses.
Alors, puisque le terme de traversée, tu viens de l'employer, on pourrait croire que ce rassemblement d'écrivains, j'avais écrit Panthéon, je raille, c'est pas un Panthéon, ce rassemblement, cette famille, cette communauté, parce que le mot viendra chaque chose en son temps, on pourrait croire que cette communauté d'écrivains n'accueille que des romanciers consacrés par la communauté des lettrés, consacrés par la tradition, etc. Bon, Émilie Brontë, personne ne mettra en doute la validité, la légitimité d'un tel choix et de bien d'autres. Or, tu t'intéresses beaucoup à des auteurs qui ne sont pas réputés comme faisant partie des grandes bibliothèques de lettrés, justement, et des auteurs, y compris des auteurs à succès, des auteurs grand public, des auteurs de masse, on peut dire, et notamment un certain, le nom vous dira à tous quelque chose, un certain Stephen King, sur lequel tu t'attardes longuement. Moi, je n'ai jamais été je suis jamais tombé, je regrette d'ailleurs de tomber dans la marmite. Bon, chacun ses manques ou ses, au contraire ses attachements. Est-ce que tu pourrais illustrer la place éminente, enfin en tout cas singulière, qu'occupe Stephen King, dont je suis allé vérifier tout à l'heure l'importance qu'il a dans le rayon d'une librairie comme celle chez Mola, c'est-à-dire en gros 80 cm à 1,20 m, à peu près, pour donner une idée quand même de ce que c'est Stephen King. C'est quand même, on se souvient dans les années 90-80, tous les adolescents, tout le monde autour de soi était hanté par Stephen King.
En fait, la place éminente, disons que moi, dans mon travail, il a eu une place particulière, pas éminente, je dirais pas éminente, mais il a eu une place particulière dans le sens où j'étais très étonnée par le succès qu'il rencontrait. Je l'avais lu moi-même, je trouvais que dans ce domaine, il y avait des auteurs plus percutants, plus frappants. Et moi, j'ai eu envie de comprendre ce qui faisait c'était vraiment une esquisse d'essai de compréhension, pourquoi il était aussi fascinant finalement pour beaucoup de gens, pourquoi je le lisais moi aussi, puisque au fond, il avait bien fallu que je le lise pour pouvoir en dire quelque chose. Et ce qui est évidemment éminemment frappant, c'est tout de suite, c'est la place et le rôle de l'horreur. Je veux dire, l'horreur est un terme qui revient très fréquemment dans ses livres. Il est décrit par la critique comme le maître de l'horreur. Et cette horreur, bien sûr, elle était tout à fait consonante avec ce que j'essayais de dire du mal et du réel, l'horreur étant une possible manifestation du réel. Et j'ai eu envie de comprendre comment il écrivait, comment il travaillait vis-à-vis de cette horreur, d'autant qu'il dit qu'il reconnaît un fond humain, hostile, violent, cruel, et il justifie ses propres livres dans Anatomie de l'horreur de la manière suivante. Il dit qu'il faut bien nourrir les crocodiles de temps en temps. Donc autrement dit, ces livres étaient là pour nourrir les crocodiles du lecteur, c'est-à-dire pour alimenter l'horreur. Et donc j'ai travaillé à partir de deux romans particuliers, un roman qui porte sur une figure de lectrice, c'est dans Misery, une figure de lectrice absolument terrifiante.
Misery,
qui,
celui-ci.
Oui, celui-ci. Qui elle emprisonne son auteur favori et elle va le tourmenter, le torturer physiquement, mais avec une cruauté dont on n'a pas idée. Enfin, en le relisant plusieurs fois, j'étais quand même toujours très, très frappée, très horrifiée par ces scènes de torture. Pour qu'il écrive, il avait abandonné son héroïne Misery, la série était finie. Elle, en tant que lectrice, n'a absolument pas supporté cette fin et elle a exigé que sous la torture, il écrive à nouveau la suite des aventures de Misery, ce qu'il fait, mais il arrive à s'enfuir quand même à la fin. Enfin, voilà. Et l'autre roman qui s'appelle La part des ténèbres, elle, c'est plutôt ce roman-là concerne plutôt la part de l'écrivain lui-même, la part des ténèbres de l'écrivain, en essayant de comprendre de manière fictionnelle ce qui pousse un écrivain à écrire. Et pour ce faire, il invente une sorte de double monstrueux, de jumeau dégénéré, issu d'une tombe d'ailleurs, qui va écrire. Qui est la part de l'écrivain, celle qui écrit est horrible, elle vient d'une tombe, elle est sanguinaire, etc., etc. Et j'ai pris ces deux livres comme des images d'une certaine représentation de la lecture et de l'écriture, et j'ai essayé de comprendre où il situait l'horreur. Et en fait, et là, c'est toute la différence entre Stephen King et les autres auteurs dont je parle. Stephen King, lui, il est bien maître de l'horreur dans le sens où son objectif, c'est de produire l'horreur chez son lecteur. Alors que les autres écrivains écrivent, eux, à partir de l'horreur, ce qui est tout à fait différent et qui est éthiquement et esthétiquement produit de tout autre, des effets tout à fait différents. Donc, c'est, oui. Il est là un peu comme... comme exemple de... comme contre-exemple, en fait. Voilà.
D'accord. Oui,
en
mais...
même temps, oui, je préciserai oui. aussi que ce texte est né aussi d'une volonté de réflexion, là, parfaitement assumée, d'un certain nombre d'autres réflexions portant sur d'autres auteurs dans la même lignée que Stephen King, comme Anne Rice, par exemple, mais aussi des séries américaines comme X-Files. Ce qui m'intéressait de savoir, c'était comment ces auteurs, ces choses-là, grand public, faisaient résonner aussi le réel de leur manière. Alors, les textes sur X-Files ou des choses comme ça, ou Anne Rice, ne sont pas dans le volume puisqu'ils ne concernent pas ne concernaient pas en leur principe des problématiques purement littéraires, mais ils appartiennent à la même réflexion. Voilà. Je crois que le réel, c'est un quelque chose que la période contemporaine pense autant dans ses réalisations les plus nobles et les plus réussies que dans d'autres champs, comme justement certaines séries américaines.
Oui, je pense que, bon, on peut effectivement, tu as peut-être raison de dire que Stephen King est un cas un peu d'exception, oui. Mais quand même, ça pose, il y a toute une réflexion sur le type de lecteur que, oui. que ça impose, donc page 99. Et je me demande si ça ne va pas plus loin, si on peut se demander même si le roman, enfin ce type de roman, le contemporain, on peut dire, hein. Mettons de côté le type roman SF, on ne s'occupe pas du classement ici. Si le roman n'est pas à l'origine ou le lieu d'un malentendu qui peut devenir assez pervers. En ce sens, si je comprends bien, le commun des lecteurs, le public des Stephen King notamment, serait toujours piégé par ses propres fantasmes, incapable de regard critique en quelque sorte, hein, dont Barthes fait le critère de distinction.
Oui, c'est ce qu'il appelle la lectrice hystérique.
Et voilà, c'est très intéressant. Je lis ce passage quand même. Hein. Le roman thématise ainsi le malentendu fondamental au cœur de la communication littéraire. Donc il n'est pas propre à tel ou tel roman, mais au cœur de la communication littéraire. Deux points. La lettre n'est jamais lue que par celui à qui elle est adressée, et celui qui la lit en altère le sens. Dramatique incommunicabilité, d'ailleurs, entre parenthèses, point. La femme qui recueille Paul Sheldon après son accident est cette lectrice hystérique qui, selon la typologie des lecteurs proposée par Barthes dans Le plaisir du texte, serait, je cite, « celui qui prend le texte pour de l'argent comptant », l'expression était reprise, et Barthes souligne, « pour de l'argent comptant », qui entre dans la comédie sans fond, sans vérité du langage, qui n'est plus le sujet d'aucun regard critique, et se jette, là encore souligné par Barthes, à travers le texte, ce qui est tout autre chose que de s'y projeter. La nouveauté introduite par Stephen King est d'avoir fait de ce lecteur la source d'une horreur quelque peu inattendue, mais que les analyses barthésiennes pourraient laisser pressentir. Et j'avais noté ici, est-ce que de façon implicite, ça ne pose pas tout le problème, on en parlait tout à l'heure, de la distinction très difficile à faire entre les lectures dites de masse, lectures dites lettrées. Parce que finalement, autrement dit, pour être un vrai lecteur de Stephen King, si on suit ton exemple d'ailleurs ici, il faut être un lecteur critique et ne pas tomber dans le piège de cette horreur qu'il aurait l'art de réanimer en nous. Et que les lecteurs de masse, eux, bah, seraient des gogos. si je puis dire. Ou alors, à l'inverse, est-ce que Stephen King ne met pas le doigt sur quelque chose qui est fondamentalement actif ?
Moi, je crois qu'il met le doigt, et c'est ce qui fait la force de ses romans, il met le doigt sur quelque chose de fondamentalement actif, pertinent. Il a une approche tout à fait judicieuse, qu'on peut tout à fait défendre. Moi, ce que je lui reproche, c'est simplement le fait d'en faire un argument de vente. Je veux dire, c'est-à-dire que j'ai dit qu'il avait... il a une connaissance extraordinaire des courants, enfin des réflexions, de la critique littéraire, des théories de la lecture, etc. Et il les met au service, ce qui peut être tout à fait louable. Mais c'est cette position de l'horreur, parce que visiblement, il faut donner à manger, enfin, il faut nourrir les crocodiles de temps en temps. Ce qui me gêne personnellement. Mais bon, voilà, enfin, c'est une position très personnelle sur la question. Maintenant, il faut aussi reconnaître que moi, j'ai joué le jeu, que mes premières lectures de Stephen King n'étaient pas des lectures critiques. Moi, je voulais savoir aussi pourquoi j'étais captivée, c'est-à-dire comment il travaillait concrètement. Alors, pour Misery, j'ai découvert qu'il avait en fait repris un livre de Fowles qui s'appelle L'Obsédé et qui raconte la même histoire, mais tout à fait hors du champ du lecteur et de l'écrivain, puisque c'est une sorte de psychopathe qui emprisonne une jeune fille et qui va la garder sous scellé pendant très longtemps. C'est la même chose, simplement les effets dans le roman de King sont extraordinairement outrés et les scènes de torture n'apparaissent pas dans le roman de Fowles. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir comment les choses fonctionnent et c'est ce que j'ai essayé de montrer ici. Il est bien en écho avec le réel, il est bien en résonance avec le réel. Ouais. Moi, je défends aussi quand même une certaine éthique, mais ça, c'est tout à fait pas ton, enfin, beaucoup plus loin dans mon livre, mais de l'écriture, il y a une responsabilité de l'écriture, de ce qu'on produit par l'écriture. Je ne suis pas sûre que produire l'horreur soit un but raisonnable, je veux dire faiblement, voilà.
Mais produit peut-être une sorte de plaisir très particulier, enfin aussi, voilà. C'est... Alors là, on pourrait passer un autre plan, tout en continuant l'ouvrage et sans décliner chaque chapitre, à un autre aspect décisif, je crois, enfin très important, je crois que c'est vers là que tu veux nous conduire, c'est ce qui... Alors, mon Stephen King, il est dans la contemporanéité, on l'aura compris, mais tu interroges longuement ces nouvelles formes littéraires qui ne sont pas spécifiquement... des formes romanesques repérées comme telles, dans l'extrême contemporain et des formes qui s'efforcent de répondre, je cite, « de répondre à ce qui n'a pas de nom ». On reprend cette question de cette poursuite du réel et que tu englobes dans les écritures du réel, en fait. Alors, nous faisons ainsi connaissance avec des auteurs nettement moins populaires que celui dont il vient d'être question, quelqu'un comme Gérard Massé, par exemple, un poète placé sous le signe de la perte, dans une filiation avec Gérard de Nerval, enfin, qui est assez marqué. Alors, si tu veux, tu peux dire un mot de Gérard Massé. Enfin, bon, à la fois poète, mais c'est vrai qu'il est très difficilement classable, enquêteur, écriture de colportage. Bon. Gérard Massé, on retrouve Pascal Quignard, bien sûr. Enfin, je dis bien sûr, parce que c'est celui qui était le plus familier. Donc on peut y revenir, mais je voudrais aller tout de suite, mais on peut y revenir. Mais on découvrira aussi maintenant un auteur moins décidable, puisqu'il ne relève pas à première vue, en tout cas au départ, de la littérature. Je veux parler, tu l'auras compris, de Jean-Bertrand Pontalis, qui est venu souvent ici présenter ses livres les plus récents. Et tu lui consacres même tout un chapitre, qui est sous le titre, d'ailleurs un très très joli titre emprunté, enfin, paraphrasant l'un des titres de Pontalis, « Le récit des limbes ». Le récit des limbes, c'est le Pontalis, lui, écrit l'enfant des limbes. Donc les limbes, on est toujours dans cette zone. Alors, ma question, elle est celle-ci. On voit bien le fil souterrain, le fil d'Ariane, qu'on vient de dévider à grands traits, qui, sous l'invocation du mal, court depuis le début. À savoir, est-ce que ce fil d'Ariane, ça ne serait pas donc cette expérience de la perte du deuil, maintenant des limbes, ou pas? Est-ce que c'est un fil d'Ariane qui te semble reconnaissable comme tel, ou est-ce que c'est réducteur, ou est-ce que c'est valide?
Alors, pour répondre à ta question, il faut juste rappeler que le texte sur Stephen King ouvre la partie qui est consacrée à la décision d'écrire et qui était un sujet qui m'intéressait beaucoup, pour lequel d'ailleurs, enfin, ici à Bordeaux, avec Emmanuel Occard, on avait présenté quelque chose. Et la question était de savoir comment se situe le mal, l'horreur, etc., par rapport à la décision d'écrire. Est-ce que la décision d'écrire, ça se fait? C'est quelque chose de repérable, c'est une question très naïve, mais j'y tenais beaucoup. Et donc je voulais essayer de comprendre comment, à un moment donné, alors que pour une grande majorité de personnes, il n'y a pas ce recours, bien pourquoi l'écriture s'imposait. Et c'est ce qui a donné, quand elle, j'étudie donc un certain nombre de cas, de points d'origine repérables dans les œuvres. Alors c'est vrai que, par exemple, chez Pascal Quignard, il est absolument clair que la décision d'écrire, ou ce qu'on peut appeler telle, s'origine dans une expérience traumatique de la langue et du langage, que chez Emmanuel Occard, très étonnamment, ça s'origine plutôt dans une expérience de lecture problématique également, puisque c'est le premier manuel de lecture de CP qui a produit cet effet chez lui et lui a donné envie de voir, par sa propre expérience, ce qu'il en était du geste d'écrire. Et de fait, ensuite, cette réflexion m'a conduite à la fin à envisager ces écritures du réel, ces écritures nées d'un coup porté, d'un événement, d'une rupture, d'une effraction, et de voir comment les formes les plus canoniques en étaient malmenées, ou non. Enfin, qu'est-ce qui s'inventait sous cette impulsion? Le premier constat, c'était évidemment que les formes littéraires étaient quelque peu altérées, parce qu'il y a quelque chose qui domine dans tous les cas, c'est le principe de fiction. C'est-à-dire que si on reconnaît le réel comme, je cite Lacan, ce que je n'ai pas fait depuis le début, puisque c'est quand même à Lacan que j'ai emprunté ce concept du réel, si la réalité, c'est la grimace du réel, alors la réalité est toujours quelque chose de l'ordre d'une élaboration fictionnelle. Et à cet égard, toutes les formes littéraires relèvent, ont leur principe de la fiction. C'est d'ailleurs la démarche, c'est d'ailleurs la position clé de Philippe Forest, qui publie des romans et des romans, parfois on peinerait à déceler comme de véritables romans, tant ils sont différents de ce qu'on attend dans ce registre. Mmh. Et donc j'ai essayé de voir comment ce concept du réel malmenait, quand il était au cœur de la création, les formes. Et donc, de fait, il malmène... Chez Gérard Massé, par exemple, ce réel se drape, si on veut, sous les traits de la poésie considérée comme perdue. C'est-à-dire qu'on dit on est sourd absolument, la poésie a disparu, elle n'est plus là, et c'est l'objet de sa quête, ce que lui nomme poésie. Chez Pascal Quignard, ça donne cette forme absolument fascinante de Dernier Royaume, qui n'est ni roman, ni conte, ni essai, etc., mais qui est tout cela à la fois, et qui est tendu vers la volonté de dire au plus près. Mmh. Voilà. Alors, chez Pontalis, moi, ce qui m'avait vraiment intéressé, c'était cette position quasi assumée de la fiction en tant que telle. Et ce qui m'a aussi beaucoup intéressé, ce que j'appelle récit des limbes, c'est une sorte de récit essai, de récit qui pense en même temps et dont le maître mot est l'écriture pauvre. Elle pose comme un but à atteindre, non encore pleinement réalisé, mais écrire au plus juste de quelque chose que je pourrais appeler la pulsation du réel, impose de se défier d'un langage trop orné, par exemple. Voilà. Et dans ces textes, qui sont des textes littéraires pour moi, s'invente quelque chose que je trouve, qui mérite attention véritablement, parce que c'est une forme absolument neuve. Il y a eu le roman essai, le roman fleuve de partie du XXe siècle, il y a eu le récit poétique, et il me semble que Pontalis invente, pour rester homologue ou homogène à son objet, une forme neuve qui serait le récit essai à l'écriture pauvre.
Moi, je pense que
moi, je suis très sensible à cette.
Oui, tout à fait. Non, mais je crois que ça mérite. On s'est arrêté sur Stephen King, on peut bien s'arrêter sur Pontalis. Non, mais tout à fait, je suis entièrement d'accord. Tu poses la question dans des termes un peu différents. Le dialogue avec les sciences humaines, bon, quelles nouvelles formes s'inventent sous nos yeux?
Oui.
Ça, c'est la question quand même qui est capitale, dire, quand on s'intéresse un peu à ces questions, sous nos yeux. Alors que nous restons peut-être hébétés et aveugles par inhibition de la tentation nominative, nomination des genres. Le dialogue avec les sciences humaines, comme la psychanalyse, peut-il modifier ou infléchir les orientations de l'art littéraire? Tel est ici mon souci, Pontalis. Alors c'est vrai que Pontalis, bon, moi je le verrais d'une manière, ça ne sera pas en opposition avec cette façon dont tu le présentes, écriture délibérément ou ostensiblement fragmentaire, mais qui se détache, tu as cité le nom de Lacan, qui se détache du discours de maîtrise quand même. Et dans ce dernier texte que je viens de publier, j'ai oublié de l'apporter, Pontalis, qui s'appelle « Avant », il y a une phrase qui lui échappe peut-être, et il dit « Moi, je veux sortir de l'ordre du discours ». Or, l'ordre du discours, c'est le grand texte de Michel Foucault, l'ordre du discours. Et on a le sentiment que Pontalis ne cesse de déjouer ce que tu appelles les normes, etc., l'ordre du discours. Et c'est de plus en plus ce qu'il fait avec une sorte de légèreté, apparente légèreté, tout à fait surprenante, enfin, et qu'il commence à pratiquer avec l'amour des commencements au moment où il quitte, où il cesse de faire de l'écriture théorique, on va dire. Voilà, c'est ça, Pontalis. C'est intéressant d'avoir le parcours de quelqu'un qui fait un vocabulaire de la psychanalyse, donc qui donne la théorie dure, et qui progressivement devient écrivain à 55 ans, 60 ans.
Oui, mais parce que, et c'est là, je crois que le discours, le dialogue... Le discours, l'échange avec les sciences humaines et en particulier avec la psychanalyse produit quelque chose. N'est pas un décalque, mais produit quelque chose. Un exemple très simple, c'est peut être trouvé dans la pensée de Pontalis concernant l'autobiographie. Qu'est-ce que ça apprend à la psychanalyse, sinon que le je ou le moi sont des données quelque peu sujettes à caution, enfin qu'on peut discuter, qu'on peut réfléchir, et du coup. Mettant en question l'autobiographie, c'est-à-dire récit rétrospectif qu'une personne fait de sa vie et de l'histoire de sa personnalité, il invente un quelque chose qu'il appelle l'autographie, qui est tout à fait autre chose, qui est la conséquence d'une nouvelle conception du jeu comme du coup réduit à son instance de discours, et non plus une sorte de moi plein et rayonnant, mais une écriture pauvre qui est homogène à ce jeu réduit à peu de chose que montre le trajet de la d'une psychanalyse en tout cas. Voilà, ce qui s'invente là, du coup, en prenant appui sur des concepts freudiens ou lacaniens, n'a plus grand-chose à voir dans les faits, dans le texte même, avec ses sources, mais invente une forme tout à fait neuve. Et l'autographie est une forme dont on ne trouve trace nulle part ailleurs. Et voilà, il dit... Oui, il dit, c'est une autobiographie d'une part ignorante de la chronologie, d'autre part bien partielle. Des plantines de ma vie n'y sont pas évoquées, même allusivement.
Voilà.
Auto, assurément, mais non, biographie. Une autographie, si l'on veut, une graphie de soi qui crée un jeu par l'écrit. C'est-à-dire que ce jeu évanescent qu'on emploie sans arrêt et qu'on peine à doter de sens, c'est dans l'écriture qu'il va prendre du poids, qui va trouver un ancrage. Moi, j'ai trouvé que cette pensée était pour le coup extrêmement féconde pour penser les renouvellements de l'autobiographie en tant que genre qui est allé au maximum de ses impasses. Voilà.
Oui, tout à fait. On poursuit un tout petit peu, mais après on passera vers un dernier point. Quelque chose qui va de pair avec ce que tu viens de dire, c'est ce qu'il fait de la notion d'infance, c'est-à-dire ce qu'il dit, tout ce qu'il se trouve de commun, d'affinité avec Pascal Quignard,
oui,
d'ailleurs. Seulement peut-être que... c'est une question que je me suis posée, tu verras ce que tu en penses, mais Pascal Quignard, l'infance est quand même frappé sous le coin, quand même une sorte de désespoir, désespérance, enfin en tout cas, d'irrémédiablement perdu, pour faire simple.
Oui.
Chez Pontalis, j'ai le sentiment de plus en plus, et surtout je vois son dernier bouquin, la place qu'il donne à l'enfance, à l'infance, comme principe de recommencement, et j'y verrais, bon, je prends mes risques en disant ça, que l'enfant chez lui devient une sorte de un peu de vertu d'espérance, enfin, et même de principe espérance. Et comme par hasard, l'espérance est la deuxième vertu théologale. Alors, je ne veux pas faire de la théologie à tout prix, mais c'est quand même tout à fait.
On peut le prendre d'une autre manière. C'est l'enfance telle qu'il le défend rejoint aussi un peu ce que dit Lou Andréa Salomé. Il y a quand même une orientation éminemment vitaliste dans ce temps de non-parlance assumé, où finalement Lou Andréa Salomé montre dans ce qu'elle a écrit que c'est un principe fondateur de son travail, de son énergie, de son écriture, etc. Et il me semble que chez Pontalis, il y a aussi cette orientation commune vers ce temps incertain, ce temps de tous les possibles.
Voilà, toujours ouvert, tous les possibles.
Ce temps d'ouvert. Où, finalement, dont le langage, la griffe du concept, dit Pontalis, pourrait nous tenir éloignés. Voilà. Et c'est le même mouvement qu'on trouve chez Pascal Quignard aussi, c'est-à-dire une volonté de monter, de remonter vers l'origine, vers ce temps de la plus grande énergie possible.
Oui, je d'accord. Voilà. Il se rejoignent sans contradiction. Ouais. C'est vrai qu'il marque assez souvent, c'est rare que Pontalis se trouve des complices, mais Pascal Quignard apparaît souvent, y compris dans ce dernier livre. Alors, j'espère que nous ne sommes pas trop longs. On va terminer sur une réflexion qui me semble importante et qui tient lieu de conclusion. Enfin, je pense que c'est une conclusion qui n'a pas le mérite de conclure, comme disait de Flaubert, au risque de tomber dans la bêtise. Donc c'est une conclusion très ouverte, mais qui a le mérite de la cohérence, en ce sens qu'elle opère, elle trace trois grands cercles autour de la notion de communauté.
Quatre.
Enfin, je parlais des trois, puis le dernier, je tout le prends en charge. Moi, je ne m'aventure pas dans le quatrième. Mais bon. La notion de communauté, ou plutôt, page 307, à l'exigence communautaire à laquelle le roman contemporain, dis-tu, n'aurait pas renoncé. Exigence communautaire, qu'est-ce qu'il faut entendre? Alors, je me suis demandé d'abord, dans une première approche, si cette prise de conscience de la communauté, qui n'apparaît pas nécessairement avant dans le livre, in extremis ne vient pas sauver toutes ces expériences finalement extrêmement fragmentaires, extrêmement parfois même solipsistes, sauver même de l'idée même de littérature, dans le sens où la littérature crée du lien, enfin un lien social historique. Ça, est-ce que j'ai tort ou pas tort? Bon, ça c'est un premier point. Je continue ma question, ça va? Et ma deuxième question, ce sont les trois cercles. Trois cercles de communauté, trois cercles remarquables, à mon avis, assez représentatif de ce que sont nos sociétés occidentales et j'allais dire même françaises, européennes, françaises. Celles des ruraux en passe de disparaître, c'est-à-dire les communautés perdues. Bergugno, Millet, mais surtout Pierre Bergugno, les communautés perdues. Vous connaissez le travail de Pierre Bergugno. La campagne, le monde des ruraux a disparu. Nous ne pouvons que le déplorer, c'est une forme d'élégie, si l'on veut. La communauté, ce que tu appelles la communauté fragmentée, c'est-à-dire les citadins sans foi ni loi, dont Geoffrey et les microfictions rendraient assez bien compte. Et puis une communauté qui a l'air de préserver quelque chose d'elle-même, qui ne serait pas morte, elle, ni fragmentée, c'est la communauté des lettrés, dont d'ailleurs il est question dans Vie secrète. Et dans Vie secrète de Pascal Quignard, donc, je ne sais pas si je vais lire ce passage, c'était un peu long.
Ceux qui aiment ardemment
les livres. Tu veux peut-être le lire, non, ce passage ?
Non, vas-y, lis-le.
D'accord. Ceux qui aiment ardemment les livres constituent, sans qu'ils le sachent, la seule société secrète exceptionnellement individualisée. La curiosité de tout et une dissociation sans âge les rassemble sans qu'ils se rencontrent jamais. Leurs choix ne correspondent pas à ceux des éditeurs, c'est-à-dire du marché, ni à ceux des professeurs, c'est-à-dire du code, ni à ceux des historiens, c'est-à-dire du pouvoir. Ils ne respectent pas le goût des autres, ils vont se loger plutôt dans les interstices et les replis, la solitude, les oublis, les confins du temps, les mœurs passionnées, les zones d'ombre, les bois des serres, les coupes papier en ivoire. Ils forment à eux seuls une bibliothèque de vie brève, mais nombreuse. Ils s'entrelisent dans le silence, à la lueur des chandelles, dans le recoin de leur bibliothèque, tandis que la chasse des guerriers s'entretue avec fracas dans les champs de bataille et que celle des marchands s'entre-dévore en criaillant dans la lumière tombant à plomb sur les places des bourgs ou sur la surface des écrans gris, rectangulaires et fascinants qui se sont substitués à ces places. Ce qui m'a frappé, je termine là-dessus, c'est que cette société que retrouve Pascal Quignard, c'est à peu de choses près celle dont parle Dumézil. Hein, les Oratores, les Aratores et les Bellatores. C'est très, bon, voilà, donc ces trois communautés, est-ce qu'elles sont réelles?
À l'origine de ce travail, il y avait quand même une réflexion commune avec l'équipe Modernité de Bordeaux 3, ici, sur la question des communautés. Moi, j'avais eu envie de réfléchir à... l'idée, c'est que quand même, la notion de communauté était devenue éminemment problématique. Et... La deuxième origine à cette réflexion, c'est le malaise dans la civilisation de Freud, et dont je me demandais quel écho il pouvait bien avoir aujourd'hui dans la littérature contemporaine. Puisque dans cet ouvrage, Freud évoque la difficulté de vivre avec les autres, qui est vraiment le vrai problème. Et ça a été le fil conducteur de ma conclusion, parce que, au fond, j'avais rassemblé là une sorte de petite communauté de gens qui étaient en écho les uns des autres, qui se répondaient, et j'avais l'impression d'avoir suivi comme ça un petit fil qui courait entre quelques auteurs. Et je me suis demandé si ce lien pouvait être pensé comme un lien communautaire, comme si ce lien de ce rapport particulier au réel pouvait être ce qui faisait communauté. Et donc, évidemment, dans mon enquête, j'ai décelé comme ça trois communautés différentes. Dans mon corpus, il y avait Richard Millet, dont on n'a pas parlé, mais Richard Millet, Pierre Bergoglio, etc., qui, eux, situent la communauté comme perdue. Cette communauté rurale, les communautés fragmentées, c'est le lien, ce qui fait lien social, c'est plutôt la haine et la cruauté envers son prochain que montre Freud, mais curieusement, au lieu d'être un principe des liaisons, dans les textes de Geoffrey en particulier, est devenu un principe de liaison. C'est-à-dire que c'est la haine qui fait lien social entre les individus. Donc c'est une sorte de mutation, de renversement. Et la communauté des lettrés apparaissait dans ce contexte comme une sorte d'oasis préservée, une sorte de lien social de fait, par le biais de l'amitié entre lettrés, sur le modèle d'une sorte de république des lettres qui aurait continué. Or, moi, j'ai eu envie de montrer qu'il n'en était rien, que cette communauté de lettrés, elle ne faisait que reconduire les mêmes impasses que les communautés ou que les difficultés qu'épingle Freud dans Malaise dans la civilisation, partout, comme ailleurs, la même hostilité, la même cruauté, etc. Il y a un petit texte de Christian Doumé que j'aime beaucoup, où finalement...
Qui est cité dans le...
Il est cité, mais pas là,
ah, d'accord.
En fait. Et je l'avais renoté. Ah oui, voilà, c'est ça. Où il évoque l'impétrant écrivain qui a envoyé son manuscrit à l'éditeur parce qu'il pensait, je cite, « alléger le monde de son trop de matière, de son principe de réalité, de son esprit de sérieux, par la grâce des signes, des symboles, de la pensée, de l'imaginaire et d'une bonne dose de jeu. » Et il reçoit en retour une lettre de refus type de la part de l'éditeur. Et voilà comment Doumé commente la lettre de l'éditeur. « Rappel à l'ordre. » Tes ordures n'ont rien à faire dans ma boutique, elles m'encombrent, elles puent, du balai, etc. L'auteur, lui qui avait cru répondre à un désir en le suscitant, qui secrètement se préparait au « Venez, chère âme, on vous attend de tous les élus du monde », se trouve confronté au problème d'un transport de cadavres, payé pour l'allée du vif, payé pour le retour du mort. Car non seulement dans le voyage, on a en lui tué quelque chose de vague, quoique d'assez global, mais en outre, on le prie de rapatrier la viande. Donc ce seul petit passage montre bien que cette communauté des lettrés nourrie et alimentée par une amitié à la manière de Cicéron ne peut pas vraiment être retenue comme telle. C'est pourquoi j'ai proposé, moi, l'existence d'une quatrième communauté. Ce n'est pas une communauté de lettrés, comme monde régi par des lois, des rituels, des cérémonies, etc., mais une sorte de communauté de l'écriture qui n'impose pas la coprésence, mais qui a une pensée, ou plutôt une éthique de l'écriture, une réflexion sur ce que c'est qu'écrire dans son lien au réel, pour justement écrire au plus près de ce réel et ne pas s'en laisser compter par les mots, le langage, les images dans lesquelles on est tous plus ou moins pris. Voilà. C'est cette communauté-là qui me semble être inventé par les auteurs que j'ai rassemblés ici et qui m'est cher du coup, enfin, parce que je trouvais que c'était une réponse tout à fait Voilà, cette possibilité de communauté, c'est une communauté sans communauté, c'est une communauté de fait, mais qui n'est pas une communauté...
Constituée, instituée.
Instituée, voilà, ouais, qui n'est pas une communauté instituée ni institutionnelle.
Comme une unité, ouais.
Voilà. Mmh. Et il me semble que ces auteurs, écrivant en écho les uns avec les autres, représentent au mieux de ce que serait ce lien social fondé sur... une approche extrêmement exigeante, âpre, tendue de l'écriture, d'une vraie écriture, si je puis dire. Hmm. Voilà.
Bon, mais je crois que tu ne pouvais pas le mieux le dire. Hein. J'avais parlé d'une sorte d'autoportrait. Je crois que, voilà, chacun jugera. Merci beaucoup. En tout cas, nous, on n'a pas tout à fait terminé. Donc, vous aurez compris. Je pensais à ce livre de Benjamin, « Je déballe ma bibliothèque ». Il y a eu un peu de ça. Hein. C'est... Ce livre, je vous recommande la lecture. Je déballe ma bibliothèque.
Hein, c'est pas seulement
Benjamin.
Ce ne sont pas seulement ces textes-là qui sont dans ma bibliothèque.
Ah non, mais ils sont quand même une part. Non,
ils ont quand même un lien électif pour moi.
Non, non, voilà.
Avec ces auteurs
sûr,
et ces
sûr.
Textes.
Oui. Alors, on a vu donc il y avait une corde à ton arc. Là, c'était l'écriture, la critique. Il y en a une autre, c'est l'archet du violoncelle, mais ça, je ne crois pas que tu veuilles qu'on en parle. Et puis l'autre, c'est le pas de danse. Alors tu annonces, je crois, un ouvrage sur la danse, donc si tu veux en parler avant de terminer.
C'est aussi dans la logique de ce que je fais aujourd'hui, mais d'une manière un peu plus éclatée, c'est-à-dire en regardant ce qui se passe dans les autres arts. Et il y a un domaine qui m'est cher, celui de la danse. Et il se trouve également que Pascal Quignard est en ce moment en tournée avec la danseuse de Buto, Carlota Ikeda, qu'ils ont inventé une médéa extrêmement surprenante. Et que donc j'ai moi écrit un livre qui raconte cette marche de Pascal Quignard vers la danse et qui essaie de montrer aussi comment la danse peut parfois aussi être une résonance du réel. Voilà.
Très bel point d'interrogation. Merci beaucoup.